Une que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'un des écrivains majeurs de notre époque, comme auteur d'une œuvre littéraire très singulière, mais aussi comme emblème de la liberté d'expression. Salman Rushdie, frappé par une fatwa en 1989 suite à son roman « Les versets sataniques », traqué, menacé de mort pendant des années, il n'a pourtant jamais cessé de laisser cours à son imagination. Après son autobiographie aussi poignante que cocasse, l'écrivain d'origine indienne revient à la fiction avec un nouveau roman intitulé « 2 ans, 8 mois et 28 nuits » paru en français aux éditions Actes Sud. Un titre énigmatique qui pourtant s'éclaire, car si l'on ajoute tous ces nombres, cela fait exactement 1001 nuits. Et c'est en effet du célèbre conte oriental que Salman Rushdie s'inspire pour parler de notre monde. C'est donc à la fois une fable, une réflexion philosophique, mais aussi un récit fantastique où l'on croise des penseurs libres, des djinns, des esprits malfaisants, des terriens attaqués par des créatures surnaturelles, des femmes fatales. Bref, un livre plein d'énergie où se mêlent la magie, le réalisme, l'érudition et le populaire. Un roman d'aventure étourdissant qui, en creux, n'est pas sans rappeler le combat que mène l'humanité aujourd'hui contre l'obscurantisme. De passage à Paris, Salman Rushdie s'est prêté au jeu des questions, un peu à bâton rompu, sur ce livre, mais aussi le terrorisme, la religion, les séries télévisées et même la littérature française. Avec la voix de Michel Zlotowski, son interprète, voici tout de suite la rencontre avec Salman Rushdie.
Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Quand vous étiez enfant en Inde, est-ce que vous aimiez déjà les contes des Mille et Une Nuits ?
Yes, in a way they were the first.
Oui, d'une certaine manière, c'était le premier matériel littéraire que j'ai jamais entendu. Bien sûr, je les ai entendus dans leur version pour enfants.
I loved them as children do.
Je les ai aimés comme tous les enfants le font. Et quand j'ai grandi, j'ai lu les textes originaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes originaux n'ont rien à voir avec la littérature pour enfants, c'est pour adultes. Et donc, j'écris 2 livres pour enfants, vous savez, pour chacun de mes fils. Et j'ai utilisé certaines de ces mêmes techniques narratives qui viennent des contes de fées. Et je me suis dit, mais en fait, ces histoires ont été écrites pour des adultes. Est-ce qu'il y a une autre façon d'utiliser cette narration, mais pour parler à des adultes, pour décrire le monde réel dans lequel nous vivons?
Effectivement, pour ce nouveau roman, vous avez choisi cette forme littéraire du conte. En quoi le conte peut-il éclairer notre époque?
Vous savez, pour moi, c'est une façon de comprendre. Si je veux comprendre le monde, il faut que je me le raconte. Par nature, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un analyste. Je suis quelqu'un qui fait des narrations, je suis un narrateur. Je regarde ce qui se passe dans le monde et j'essaie de le faire, de le transformer en une histoire intéressante qui m'aidera à comprendre le monde.
It helps me to explain the world to myself and hopefully to other people.
Et donc le roman 2 ans 8 mois et 28 nuits raconte comment les djinns envahissent la planète, les États-Unis et New York en particulier. Vous écrivez, ouvrez les guillemets, c'est la guerre des mondes, mais en fait ce n'est pas si simple avec les aliens d'un côté et les hommes de l'autre. Il y a des djinns par exemple comme Dunia, votre héroïne, qui aide l'humanité et des terriens qui sont corrompus, fanatiques, terroristes. Donc, qui est l'ennemi exactement?
Eh bien, l'ennemi, ce sont les forces destructrices. de la vie. Et le djinn, d'une certaine manière, incarne le bien et le mal. Comme vous dites, l'héroïne est une princesse djinna, et en fait, elle s'attelle à sauver le monde. Et contre elle, il y a certaines des créatures les plus terribles du monde, qui sont des forces destructrices, et tout à fait au hasard détruisent les choses. Ils détruisent au hasard, non pas pour un but précis, mais simplement pour détruire. Ce qui sauve le monde, c'est qu'ils ont un degré de concentration extrêmement faible. Ils sont facilement distraits. Et bien sûr, ils sont terribles, mais ils sont aussi très paresseux. Et c'est une façon de raconter une parabole sur le bien et le mal. Même si le mal est très puissant, il n'est pas indestructible.
Mais comme vous venez de le dire, le mal n'est pas seulement du côté des djinns, mm-hmm. il est aussi du côté des hommes.
Yes.
Qui sont les vrais monstres?
Well, I think we have the monster inside us too.
Eh bien, je crois que nous avons les monstres en notre propre sein.
You know, and we also have the antidote to the monster.
Et nous avons l'antidote aussi en notre sein, l'antidote à ces monstres. Ce que je veux suggérer, c'est que cette théâtralisation de cette guerre entre la raison et la déraison est aussi une théâtralisation de ce qui se passe à l'intérieur de tous les êtres humains. Nous avons tous une partie de nous-mêmes qui est raisonnable et une partie qui est déraisonnable. Et ces deux aspects luttent au sein de nous-mêmes. Oui. Ça fait référence peut-être aussi à une autre bataille dont nous sommes tous au courant par les informations, mais c'est aussi une lutte au sein des êtres humains eux-mêmes.
C'est vrai que c'est un roman binaire, ou en tout cas toujours sur le fil, entre deux époques, le XIIe siècle et le XXe siècle, entre deux mondes, réels et fantastiques, deux genres, philosophiques et populaires, deux styles, humoristiques, on rit beaucoup, et sérieux. Quel a été votre plus grand défi pour écrire ce livre ?
Chaque fois que l'on décide de travailler dans ce domaine de ce que l'on pourrait appeler l'heroic fantasy, la fantasy épique, le plus grand problème, c'est de créer un monde, quel que soit son aspect surréaliste, mais il faut que le lecteur puisse s'y retrouver comme si c'était dans le monde réel. Et en tant que lecteur moyen, vous devez, en lisant ce livre, penser, oui, ça se passe comme ça dans le monde. Et vous êtes crédible, et quand vous êtes vraiment crédible, c'est ça la réussite.
Le livre commence au XIIe siècle avec Dounia, princesse des djinns qui vient d'un autre monde. Elle séduit un philosophe Ibn Rushd, Averroès. Elle engendre beaucoup d'enfants et puis à la mort de son mari, elle disparaît, mais elle revient au XXIe siècle parce qu'il y a une fissure spatio-temporelle et les djinns attaquent le monde. Il y a une tempête, il y a de la foudre, des phénomènes étranges arrivent. Est-ce que pour vous, cette fissure, ça a été aussi le 11
septembre 2001 ?
Non, très franchement, je vois que ça peut être lu de cette manière-là, mais en fait, je vivais à New York lorsqu'il y a eu cette tempête extraordinaire, Sandy. qui a créé des destructions terribles dans la ville. Et d'une certaine manière, la ville n'en s'en est pas encore remise de ces destructions. Et j'étais au milieu de la ville, lorsqu'il y avait le blackout, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'électricité la journée, la nuit. Mais c'est cette idée-là d'une catastrophe naturelle immense qui fait une disruption en quelque sorte dans le monde.
Donc rien à voir avec le 11 septembre dont on commémore hélas le 15e anniversaire.
Non, j'avais pas ça à l'esprit. Mais je peux voir pourquoi certaines personnes peuvent y penser. Peut-être que c'est bien d'y penser comme ça aussi. Mais le point de départ, effectivement, du livre, c'était véritablement une catastrophe naturelle. Et il y a un élément du livre, on pourrait même dire écologique, comment la destruction du monde naturel a à voir avec la destruction de notre réalité.
Effectivement, c'est l'apocalypse. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'événements qui arrivent, comme si c'était vraiment la fin du monde. Salman Rushdie, vous n'avez pas voulu écrire un livre sur la religion, même si nous, lecteurs, nous y pensons beaucoup. Et d'ailleurs, voilà ce que vous écrivez, « Les croyants sont les pires avocats de Dieu ». Puisque vous n'êtes pas croyant, Salman Rushdie, vous êtes donc un bon avocat pour Dieu ?
Je ne veux pas être un avocat pour Dieu. Ma position, c'est que Dieu a fait ce qu'il avait à faire, et maintenant, il devrait aller dans une maison de retraite pour ceux qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je peux comprendre comment, à une époque moins instruite, on regardait, on cherchait la religion pour expliquer nos origines, d'où nous venions. Et maintenant, on cherchait aussi un guide moral dans la religion. Mais je crois que maintenant, tout d'abord, ce que nous savons de nos origines et de ce qui est dit des origines dans la religion, c'est tout à fait erroné. Et en ce qui concerne la morale, je préfère ne pas trouver ma morale chez les prêtres ou chez les ayatollahs. C'est moi qui vais trouver ma morale dans le monde laïque. Donc ma position, c'est que la religion avait un but. C'est une façon pour les hommes de comprendre leur monde et de modeler leur morale. C'est parfaitement valable comme but. Et très franchement, s'il y a des gens qui pensent que c'est encore valable pour eux, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais la fonction publique de la religion est devenue extrêmement néfaste. Et il est temps de les dépasser.
Et 28 nuits, qui est vraiment un livre où on s'amuse beaucoup. Et certains de vos personnages ont des pouvoirs spéciaux. Quel pouvoir spécial aimeriez-vous avoir ?
Oh my goodness, I don't know.
Ah, diantre, je ne sais pas. Je ne sais pas.
I've only ever really had one desire, which is to write good books.
J'ai toujours eu un désir, c'est d'écrire de bons livres. Donc, avoir le génie de Shakespeare, ça serait pas mal. Mais il n'y a qu'une seule personne au monde qui a eu ce génie, et c'est Shakespeare lui-même. Mais simplement être meilleur dans l'écriture. Une des choses que l'on sent constamment en tant qu'écrivain, c'est que on arrive toujours aux limites de ses capacités. Et on aimerait bien aller plus loin.
En tout cas, comme Shakespeare, vous avez le sens du grotesque et de la tragédie, en même temps, vous mélangez les genres. Ici, par exemple, une invention formidable, Dounia, qui donc revient sur Terre et cherche ses descendants qui ont des dons comme elle pour mettre fin à ce chaos. Donc on fait la connaissance de Geronimo, le jardinier, Jimmy Kapoor, le dessinateur de comics et plein d'autres. Et ils ont tous comme spécificité de ne pas avoir de lobe d'oreille. Et ça m'a fait penser à cette série américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Les Envahisseurs, The Invaders in English, the program, the American program, où les extraterrestres avaient la forme humaine, mais ils avaient un signe distinctif, les petits doigts restaient toujours droits. Est-ce que ça pourrait être une référence pour vous?
It sort of is a reference to that. I wanted there to be.
Oui, absolument, c'est une référence. Je voulais que qu'il y ait une caractéristique facilement identifiable qui les révélerait au reste du monde. Oui, oui, c'est pas par hasard. C'est très très drôle que vous connaissiez cette histoire. J'aime bien que ce livre ait comme héroïne principale une femme. C'est très important pour moi. J'aime aussi que il y ait une diversité de personnages dans ce livre. Et comme vous l'avez dit, Shakespeare a fait ce mélange de genres. Et c'est le don fait par Shakespeare à tous les écrivains, c'est de dire, mais oui, vous pouvez écrire un livre avec tout ce mélange, ce qui peut être à la fois une tragédie, une comédie, une histoire d'amour, tout en même temps. Et donc, Shakespeare nous a donné la permission de faire ça.
Vous venez de le dire, Salman Rushdie, votre héroïne est en effet une femme, ce n'est pas la première fois, mais ici c'est une femme un peu particulière, la princesse des djinns, parce que elle vient sauver le monde alors que normalement elle devrait le détruire, de la même façon qu'une autre femme, à la fin du livre, va aller dans le monde des djinns pour les combattre. D'une certaine façon, on a l'impression avec vous que l'avenir de l'humanité dépend des femmes.
J'ai toujours pensé cela. J'ai toujours pensé, les hommes en sont incapables.
Il y a beaucoup de références aussi dans ce roman à des auteurs, et en particulier des auteurs français. Voltaire, Descartes, Flaubert, Proust, même Georges Simenon, belge mais d'expression française. Et j'avais remarqué que dans votre bureau, il y avait aussi une photo d'un livre d'Albert Camus. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la littérature française?
Oui. J'ai toujours été très influencé par la littérature française. Et je suis un grand admirateur des philosophes de l'ère des Lumières. Admirateur de Camus. Et aussi du génie de Balzac. Il y a des parties de mon œuvre qui ont été influencées par Eugénie Grandet. Ça a été d'une grande aide pour moi pour comprendre certaines parties de ce que je voulais écrire. Oui, oui. Je suis très intéressé par la littérature française. Et pas simplement la littérature française, mais aussi par le cinéma. Oui, bien sûr, le cinéma de la Nouvelle Vague. Je suis un grand fan de cinéma. Et pour moi, Godard, Truffaut, René sont tout aussi importants que Balzac et Voltaire.
Et ce livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, pourrait donner un formidable film. Quel réalisateur aimeriez-vous?
Je pense qu'il faut raconter ça à Hollywood. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont parfaitement capables de le faire. Guillermo del Toro, par exemple. Il pourrait faire ce film.
En attendant, on va lire le livre. Merci beaucoup, Salman Rushdie. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, qui est paru aux éditions Actes Sud, dans une merveilleuse traduction de Gérard Medal. Merci encore.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Toutes ces références sont à retrouver sur le site rfi.fr à la page émission Littérature sans frontières, ainsi que sur les réseaux sociaux.